Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous ai souvent expliqué qu'en matière de meurtre, en général, il y a deux moteurs, l'argent et l'amour. Et dans l'amour, il y a un petit moteur qui est souvent la jalousie. Voici l'histoire d'une femme jalouse. L'enquête sur le meurtre en 2012 à Bobigny de Dafina Ponovic. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 27 novembre 2012, à 11h30, les pompiers de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, reçoivent l'appel d'un homme paniqué.
J'ai retrouvé ma femme. Elle s'est étouffée. Je sais pas ce qu'elle a.
Est-ce qu'elle peut vous parler, monsieur?
Non, elle est totalement inconsciente.
D'accord, monsieur. Quel est votre nom?
Patrice Dupuis. D-U-P-U-I-S.
Vous êtes à quelle adresse, monsieur?
À rue de Normandie, à Bobigny. C'est une cité HLM.
Un véhicule de secours se met immédiatement en route. Et pendant ce temps-là, au téléphone, l'opératrice explique au monsieur comment pratiquer un massage cardiaque. Et là...
Elle a un lacet autour du cou, ma femme. C'est le cordon de mon maillot de bain, je comprends pas.
Et deux minutes plus tard...
Elle a aussi une ceinture autour du cou, c'est ma ceinture.
Entendu, monsieur. Est-ce que vous pouvez desserrer les deux liens le plus délicatement possible? Allez-y.
J'y arrive pas, c'est impossible. Le lacet est trop serré.
Les pompiers arrivent sur place 10 minutes plus tard. Ils prennent le relais du monsieur pour tenter de ranimer la dame. Bon, j'arrête. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Elle est décédée. Elle s'appelait Dafina Ponovic. Elle avait 39 ans. Et lui s'appelle Patrice Dupuis. Ils se connaissaient depuis 6 mois à peine. Juste après, on appelle la police, bien sûr, à cause des cordons autour du cou. Et aussi des touffes de cheveux arrachées qui se trouvent partout autour du corps. Ça ressemble à un crime. Et donc c'est la brigade criminelle de Paris, le fameux 36 quai des Orfèvres, qui débarque. Bon, je dis ça, je dis rien, hein. Mais les touffes de cheveux, là, ben ça fait penser à des femmes qui se crêpent le chignon, non? Ouais, je sais. C'est un peu macho comme remarque. Mais allez savoir s'il n'a pas raison, parce que un flic du 36, ça a de l'expérience. Et en général, ça a beaucoup de flair. Les équipes de la police scientifique passent à l'action.
Bon, on cherche des poils, hein, ou des cheveux. Bref, tout ce qui pourrait nous donner un ADN. Allez, action!
Mais du côté des poils, ça ne donne rien. Le médecin légiste débarque pour les premières constatations.
Bien, nous sommes en présence du corps d'une femme dont on nous dit qu'elle a 39 ans, point. Elle présente des ecchymoses sur l'ensemble du corps, virgule, depuis le bas des chevilles jusqu'au cuir chevelu, point. A priori, les causes de la mort résultent d'un étranglement brutal, point. Nous constatons que le larynx de la victime a été écrasé, point.
Et ensuite ? Les policiers se tournent vers le compagnon, Patrice. Patrice Dupuis, qui est là, assis dans un coin totalement effondré.
Monsieur, pardon de vous importuner, je sais que c'est pas facile pour vous. Selon vous, est-ce qu'il manque des objets dans l'appartement? Des objets qui auraient disparu et qui pouvaient appartenir à madame.
Il balaye la pièce du regard. Il réfléchit un petit moment.
Bah oui, oui. Il manque son sac à main. Et puis son ordinateur portable aussi, et son téléphone.
Dit comme ça, ça ressemble donc à un cambriolage qui a mal tourné. Mais aucun tiroir n'a été ouvert. Et le couple était sur le point de déménager, la pièce est remplie de cartons, aucun n'a été éventré. Il n'y a pas non plus de traces d'effraction. Alors les flics se disent, ça ne ressemble pas à un cambriolage qui a mal tourné, mais plutôt à un meurtre déguisé en cambriolage. Mais les experts de la police scientifique n'en ont pas terminé. Dis, regarde ça. Sur le bas de la porte, là. Et puis sur la plainte. Ça m'a bien l'air d'être du sang. De minuscules gouttelettes de sang coagulées. Et du sang, ils en trouvent aussi dans la chambre et encore dans la salle de bain, dans le siphon de la baignoire et celui du lavabo. Du sang que manifestement on a voulu nettoyer, mais qui n'est pas complètement parti. Arrêtons-nous deux secondes pour faire le point. Je vous connais, hein. Je sais ce qui se gamberge dans votre petite tête de flic amateur biberonné au cluedo. Le compagnon, hein. Il a les clés de l'appartement, c'est la ficelle de son maillot de bain qui a servi à étrangler la miss. Et quand il appelle les pompiers, il semble découvrir la présence d'une ceinture autour du cou de sa femme au moment de lui faire un massage cardiaque. Sauf que voyez-vous, pas plus qu'on ne devient cuisinier en regardant Cyril Lignac, on ne devient pas policier en jouant au cluedo. Cela dit, le compagnon Patrice est tout de même convoqué au 36 quai des Orfèvres. Bien, monsieur, est-ce que vous pourriez nous donner votre emploi du temps pour la journée d'hier, 27 novembre ? Moi, je me suis levé tôt et je suis parti de l'appartement à 8h moins le quart, je dirais, pour déposer l'un des fils de Daphina à l'école. Et puis, ensuite, je suis allé à mon travail. Vous faites quoi comme métier, monsieur ? Je travaille aux pompes funèbres. Et après, monsieur ? Après, je suis rentré à la maison à 11h30. C'est là que je l'ai trouvé, inanimé sur le sol. Quelle relation est-ce que vous aviez avec Daphina Ponovic ? Mais c'était super. J'ai jamais autant aimé une femme. En plus, je l'ai rencontré à un moment où j'étais super mal. Ça a été un rayon de soleil dans ma vie. On vivait ensemble depuis 6 mois, c'était formidable. On allait déménager pour s'installer en Normandie. On allait se marier. On parlait même d'avoir un enfant.
Elle faisait quoi comme métier ?
Elle était caissière dans un supermarché.
Et le déménagement, quand est-ce qu'il devait avoir lieu ?
Dans 4 jours. Dans 4 jours, le 1er décembre.
Et vous parlez de mariage, la date était fixée ?
Ben c'était dans 10 jours. C'était le 8 décembre.
Votre opinion d'amateur de Cluedo après ce court interrogatoire ? Il a l'air sincère, n'est-ce pas ? Il a l'air sincère. Cela dit, les flics de la crime vérifient, bien sûr. Son patron aux pompes funèbres confirme qu'il est bien venu travailler aux horaires qu'il a donnés. Et le bornage de son téléphone portable colle point par point avec son récit. Son départ à 8h moins le quart, son retour chez lui à 11h30. Pardon de décevoir vos intuitions de policier d'opérette, mais ça n'est pas lui. Ça n'est pas lui le tueur. Désolé. Ensuite, les policiers de la crime font ce qu'on appelle le voisinage. Ça existe depuis le commissaire Maigret. C'est-à-dire qu'ils font le tour des voisins. À base de « Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier ?»
Ah ben oui. Mon mari vous le confirmera. Vers 8h moins 20, on a commencé à entendre des cris et des pleurs dans l'immeuble. Et ça a duré longtemps, au moins jusqu'à 9h.
Bonjour madame, brigade criminelle. Nous enquêtons sur le meurtre de madame Ponovic. Dites-moi, est-ce que vous auriez noté quelque chose d'inhabituel le matin du meurtre ?
Ah, le matin même, non. Mais il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire. Il y a quelque temps, il y a 3 femmes, elles ont sonné chez moi, sans se présenter. Et elles m'ont demandé des informations sur la Daphina. Et elles m'ont posé aussi des questions sur sa probité et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment elle se comportait avec les hommes, si elle avait des amants. Bref, beaucoup de questions très, très personnel, ça m'a intrigué.
Ça, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant que c'est corroboré par un autre témoignage, celui d'une de ses collègues caissières au supermarché.
Moi, il y a un truc qui m'a intrigué. Ça s'est passé juste après la mort de Daphina. Il y a deux femmes. Elles sont venues me poser des questions sur elle. Elles me demandaient si je savais comment elle était morte. Moi, je ne les connaissais pas, ces femmes. C'était très gênant.
Et puis, quelques jours après la mort de Daphina, son compagnon Patrice se présente de lui-même chez les flics du 36.
J'ai pas mal cogité depuis la mort de Daphina. Il y a des trucs que j'ai pas pensé à vous dire la dernière fois. D'abord, dans les semaines qui ont précédé, on nous a rayé les noms d'une pointe sur notre boîte aux lettres. Et puis autre chose, plusieurs fois, Daphina, elle a eu les pneus de sa voiture crevés ou dégonflés. Et puis il y a encore autre chose, mais ça c'était sur ma voiture. Un jour, j'ai trouvé des boulettes de papier humide, mouillé quoi, si vous voulez, dans la voiture.
Et détail qui a son importance, la voiture de Patrice n'était pas fracturée.
Et du coup, je me suis dit que c'était pas des Caïra de Bobigny qui avaient fait ça, quoi. Parce que des Caïra, on n'en manque pas ici à Bobigny. Mais ils n'avaient pas la clé. Et à ce moment-là, j'ai pensé à Fatia. Ça pouvait être qu'elle.
Qui est Fatia, monsieur?
Fatia, c'est mon ex. On a vécu 15 ans ensemble. On a un gamin. Et surtout, elle a les doubles des clés de ma voiture.
Vous pensez qu'elle est capable d'avoir tué votre nouvelle compagne?
Oui. Vous savez, elle est d'une jalousie maladive, quoi. Elle est capable du pire, je pense.
Depuis combien de temps est-ce que vous êtes séparés avec cette Fatia?
Ça fait 3 mois. 3 mois à peine.
Fatia comment?
Fatia Mokdad. M-O-K-D-A-D.
Et Patrice se met à raconter. Avec Fatia, ils se sont connus en 1997 dans un bar PMU où elle était serveuse et lui client.
Moi, j'étais super jeune, j'avais juste 26 ans. Et elle était beaucoup plus âgée, elle en avait 43. Et elle a, comme qui dirait, jeté son dévolu sur moi, quoi. Elle m'a pas laissé vraiment le choix. J'aurais pas dû la laisser faire parce que, au fil des ans, elle m'a coupé de mes amis, elle m'a coupé aussi de ma famille. Et moi, à cause d'elle, je suis tombé dans la dépression, dans la clope, dans l'alcool. Avant elle, j'avais jamais bu. Jamais. Pas une goutte. Et puis elle était violente. C'est-à-dire, monsieur, expliciter.
Elle me frappait.
À plusieurs reprises, j'ai dû appeler la police. Vous trouverez des traces, je pense, de ça. Et puis quand j'ai rencontré Daphina, quand elle l'a appris, elle est carrément venue la voir, elle l'a insultée, elle lui a même collé une gifle. Et elle lui a dit, t'auras jamais un cheveu de Patrice, il est à moi, tu l'auras jamais, sinon. Elle n'a pas fini sa phrase.
Sinon quoi? Sinon je la tue? Patrice, en tout cas, n'y va pas par 4 chemins.
Ah, moi je suis sûr que c'est elle. Je suis sûr que c'est elle qui a tué Daphina, j'en suis certain.
Les policiers n'avaient pas de piste, là, ils en ont une. Alors ils commencent à se rencarder sur cette Fatia Mokdad. Et ils tombent sur sa meilleure amie.
Je reconnais qu'avec Fatia, on a espionné la nouvelle femme de Patrice, la Daphina. Et un jour, c'est moi qui ai appris qu'ils allaient se marier. Alors d'abord, je l'ai dit à sa fille, elle est pharmacienne. Et je lui ai dit, tu dis à ta mère que Patrice et l'autre, là, ils vont se marier.
Et cette femme, la meilleure amie de Fatia, révèle au policier que quelques jours plus tard, Fatia l'a appelée et elles sont allées toutes les trois chez Daphina. Fatia, sa fille et la meilleure copine. Elles ont sonné. Personne. C'était donc elles, les trois femmes venues se renseigner auprès de la voisine. Les policiers de la CRIM pourraient arrêter cette Fatia là, maintenant, tout de suite. Mais avant de l'arrêter, ils veulent avoir des biscuits. Alors,
Ils étudient le parcours de son portable.
Bon, ça se confirme. La greluche a borné plusieurs fois près de chez Dafina dans les semaines qui précèdent sa mort. Pas mal, non?
Et celui de sa fille pharmacienne, aussi. Plusieurs fois. Et surtout, le matin du meurtre. Elles y étaient toutes les deux, à l'heure du crime. À ce moment-là de cette histoire, survient un événement très douloureux, bouleversant même. Depuis la mort de Dafina, Patrice, le compagnon, se noie dans le chagrin. Il pleure du matin au soir, il ne mange plus, il se nourrit d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Et quelques jours avant Noël, un mois et demi après la mort de sa chérie, il se suicide. Il a dit à son frère qu'il voulait rejoindre Dafina. Et il l'a fait. Celui ou celle qui a tué Dafina aura aussi la mort de Patrice sur la conscience. Ouais. Patrice est enterré au cimetière de la Courneuve, dans le même caveau que Dafina. Et le même jour, Fatia Mogdad et sa fille sont interpellées et placées en garde à vue. Et interrogées séparément, bien sûr. Dans le bureau où les flics cuisinent Fatia Mogdad, voilà ce que ça donne.
Dafina Ponovic, vous dites? Oh, je la connais pas, moi, cette femme. C'est qui? S'il lui arrivait quelque chose, j'y suis pour rien, moi.
Un aplomb incroyable. Et pourtant, les flics de la criminelle savent qu'elle ment. Mais elle n'en démord pas. Elle est blanche comme neige. Dans ce cas-là, la meilleure technique consiste à trouver une voie de contournement. Qu'a-t-elle à dire sur sa séparation avec Patrice? Sur sa jalousie?
Bien. Et si on parlait, madame, de votre séparation avec Patrice Dupuis? Comment est-ce que vous avez accueilli cette séparation?
Oh ben franchement, Patrice, c'était un vrai soulagement qu'il s'en aille.
Ça ne vous a rien fait?
Oh ben rien du tout. Il était violent, j'en pouvais plus, quoi. Et puis il buvait, hein. Il buvait comme un trou, à tous les repas. Et c'est quand il était saoul qu'il s'en prenait à moi. Bon, je sais que c'est pas bien de le dire d'un mort, mais franchement, quand on s'est séparés, j'ai eu aucun regret. Bon débarras, franchement, bon débarras.
Madame Mogdad, votre version ne correspond pas, sachez-le, aux nombreux témoignages que nous avons recueillis dans votre entourage. Ils disent tous que vous avez cherché par tous les moyens à reconquérir votre ex-conjoint.
Mais c'est faux! Moi, je savais même pas qu'il avait refait sa vie. Je savais même pas qu'il avait une autre femme.
Il est temps de déposer quelques biscuits sur la table.
Vous venez de nous dire, madame, que vous ne saviez pas que votre compagnon avait refait sa vie avec Dafina Ponovic. Et pourtant, nous avons ici l'analyse de votre téléphone portable qui démontre que vous êtes allé plusieurs fois, vous et votre fille, aux abords de son domicile. Mieux que ça, madame, vous y étiez le matin du crime. Regardez, regardez, c'est écrit là, sur cette ligne. Regardez.
Je comprends pas. Parce que moi, je peux vous dire que je suis jamais allé là-bas.
Ça s'appelle nier les évidences. Bon ben, il n'y a plus rien à tirer d'elle pour l'instant. Passons dans le bureau d'à côté où est interrogée sa fille.
Moi, j'y suis pour rien dans la mort de cette femme, rien du tout. Madame, votre téléphone portable ainsi que celui de votre mère ont borné tous les deux le matin du meurtre aux abords de la rue de Normandie à Bobigny, qui était le domicile de madame Ponovic. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Mais ça, je vais vous l'expliquer. Ce matin-là, j'ai déposé ma mère à cet endroit. Mais moi, je suis reparti juste après.
Il était quelle heure?
Ben, dans les 9h. Mais je vous jure que je sais rien sur ce qui s'est passé ensuite. Rien.
Elle ment. Ça n'était pas 9h, car une voisine, souvenez-vous, a dit avoir entendu des cris et des pleurs à 7h30. Elle ment, mais elle vient tout de même, du bout des lèvres, de balancer sa maman. C'est fou ce que les enfants sont ingrats. En tout cas, ça suffit au juge d'instruction pour les mettre en examen toutes les deux et pour les envoyer en prison toutes les deux.
en se disant « ça va les attendrir, comme on dit. Ça va leur délier la langue. Tu parles ?» Pendant 6 mois, interrogé à plusieurs reprises par le juge, Fatia se mure dans le déni. « C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. » En revanche, comme vous avez pu l'observer, sa fille est plus ouverte à la discussion. Et au bout de 6 mois, elle écrit d'elle-même au juge.
« Monsieur le juge, je souhaiterais être réentendu par vous, car j'ai des révélations importantes à vous faire. »
Bon, d'accord. Le juge l'a fait venir dans son bureau.
« Vous pouvez lui retirer ses menottes. Asseyez-vous, madame. Alors, il semble que vous ayez des choses à me dire. Je vous écoute. Mais le matin du meurtre, ma mère, elle avait rendez-vous avec un homme. C'est ça que je voulais vous dire.
Et vous avez un nom? Le nom de cet homme?
Oui, mais je peux pas vous le dire. J'ai peur des représailles. Il nous a menacé plusieurs fois, ma mère et moi.
C'est donc pour ça qu'elle a dérangé le juge, pour tenter de détourner l'attention sur un homme dont elle ne peut pas donner le nom. Bon, cela dit, par acquis de conscience, les flics du 36 vérifient sur la facture de téléphone de Fatia Mokhdad si par hasard, le matin du meurtre, elle a téléphoné à un homme.
Écoutez ça, la gamine n'a pas menti. La mère a bien téléphoné à un homme à 7h55 du matin précisément, alors qu'elle était déjà sur place, et le type, j'ai son nom, s'appelle Pascal Herman.
Ainsi donc, la fifi n'a pas menti. Le juge fait revenir Fatia Mokhdad dans son bureau.
Alors madame, nous avons établi que le matin du meurtre, vous avez appelé un certain Pascal Herman depuis les abords du lieu du crime. Qui est ce monsieur? Pascal? Pascal, c'est mon ami depuis au moins 20 ans. C'est vrai que je l'ai appelé. Et qu'il est venu me rejoindre. Il voulait récupérer de l'argent que Patrice lui devait rapport à du cannabis qu'il lui avait vendu. Madame, je vous repose la question. Savez-vous qui a tué Dafina Ponovic? Je vous écoute. Oui, je sais. C'est lui. C'est Pascal Herman. Et comment le savez-vous? Il me l'a dit. J'étais avec lui le matin du meurtre. Je l'ai vu sur place. Et il m'a dit quand je l'ai recroisé plus tard dans la matinée. Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas parlé avant, madame? Il m'a fait des menaces de mort. Il m'a dit, si je parlais, j'aurais des problèmes. Vous savez, Pascal, c'est une racaille de cité. J'ai eu peur, quoi.
Sauf qu'on vérifie. Et Pascal Herman n'a rien d'une racaille de cité, comme elle dit. C'est un bon père de famille, absolument sans histoire. Aurait-elle encore menti? Cela dit, Pascal Herman est tout de même interrogé. Il est même placé en garde à vue. Et son interrogatoire est un tournant dans cette affaire.
Oui, j'étais sur place. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Fatia, il m'a dit, Patrice, c'est un salaud. Il m'a abandonné pour une plus jeune. Et il abandonnait notre fils, il ne le voit plus. Elle m'a dit, ils vont se marier. Elle m'a dit, faut que tu m'aides à empêcher ce mariage. Et donc, elle m'a fait venir devant chez eux. Et elle m'a dit, tu vas te faire passer pour un livreur de la redoute. Et tu vas sonner chez eux. Et elle avait tout préparé, hein, le colis, le faux bon de livraison, tout ça. Et elle m'a dit, quand tu seras dedans, tu te débrouilles pour récupérer les papiers de leur mariage, pour pas que le mariage ait lieu, quoi.
Et là, il raconte qu'il sonne, que Dafina Ponovic ouvre, et qu'à ce moment-là, Fatia Mokhdad se rue sur elle.
Elle lui a mis un chiffon sur son visage. Et à l'odeur, moi, j'ai pensé que c'était de l'éther. Et après, moi, je me suis occupé de ce qu'elle m'avait demandé, quoi, c'est-à-dire les papiers. Et j'ai juste vu que Fatia l'a roué de coups. Mais j'ai pas vu quand elle l'a étranglé. J'ai pas vu.
De l'éther. Le juge ordonne de nouvelles analyses du sang de Dafina et de ses urines. Tiens,
Il y a de l'éther dans son sang et il y en a dans ses urines. Donc, Patrice Herman n'a peut-être pas menti. Peut-être. Et dans le doute, le juge les renvoie tous les deux devant les assises. Au juré de les départager et au passage, il décide de ne pas impliquer la fille de Fatia. Le procès s'ouvre à Bobigny en octobre 2015. Fatia Mokhdad n'a pas bougé d'un iota.
Je vous dis que j'y suis pour rien, moi, dans la mort de cette fille. C'est lui, c'est Pascal, c'est pas moi.
Mais elle livre tout de même une nouvelle version des faits.
Moi, ce matin-là, j'étais venu pour parler à cette femme. Je voulais avoir avec elle une discussion, les yeux dans les yeux. Je voulais lui dire que mon fils avait besoin de voir son père et qu'il fallait qu'elle le convainque de ça. Et quand elle a ouvert la porte, et ben Pascal, qui était avec moi, il a paniqué, quoi. Il s'est jeté sur elle, il s'est mis à l'étrangler. Et moi, à ce moment-là, je suis parti.
Pascal Herman, lui, s'en tient à la version qu'il a déjà livrée en garde à vue. Il répète que c'est Fatia qui s'est ruée sur Daphina, mais qu'il n'a pas vu qu'elle l'étranglait.
Et monsieur, vous n'avez pas à chercher à vous interposer ?
Ben non.
Puis vient le témoignage du policier qui a dirigé l'enquête.
Personnellement, j'ai la conviction que c'est un crime de femme depuis le début, au vu de mon expérience. Et aussi au vu du fait qu'on ait retrouvé des touffes de cheveux arrachées. C'est très caractéristique des crimes de femmes.
Et l'idée est reprise par l'avocat général dans sa plaidoirie.
Vous noterez que la victime a été étranglée avec le cordon du maillot de bain de Patrice Dupuis et avec une ceinture de Patrice Dupuis. De quoi s'agit-il si ça n'est pas d'un signe de jalousie? De jalousie maladive.
Et cette conviction l'emporte auprès des jurés. Fatia Mokhdad est condamnée à 20 années de réclusion criminelle pour assassinat et Pascal Herman à 12 ans pour complicité. Elle fait appel et pas lui, et en appel, Fatia Mokhdad est condamnée à nouveau à 20 années de prison.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.